Bonjour à toutes et tous au programme Street Art et Hôtel Pullman avec l'artiste lyonnais Paul Onvaux. Guillaume reçoit Lucille en boucle pour évoquer son actualité. L'exposition Anami contempler les fleurs à la BF15 a retenu l'attention de Gaël et Thomas nous fera entendre les mots de Jérôme Leroy dans un extrait d'un effondrement parfait. Nous terminons par quelques Gédéons, évidemment nous immanquables du moment. Nous débutons avec l'artiste plasticien Paul Onvaux qui a créé Ascension visible dans une exposition à Bourg-en-Bresse. On en a parlé avec l'artiste.
Paul Onvaux, vous nous présentez aujourd'hui une œuvre qui s'appelle Ascension. On est ici à l'hôtel Pullman de la Part-Dieu. Donc les Lyonnais pour l'instant ne pourront pas voir votre travail en dehors en fait de photographie qu'on pourra leur donner à voir un de vos personnages fétiches.
C'est ça. Alors ce personnage s'appelle Mougi. Donc c'est un mouton en fait dessiné un peu de façon cartoonesque qui revient régulièrement dans mes créations et c'est à ça qu'on me reconnaît. Donc c'est un personnage très coloré, j'utilise souvent de la couleur, hein, des couleurs primaires jaune, bleu, rouge, vert, et c'est ma signature.
Alors on a parlé de la taille de ce fameux tableau hein, qui est très grand, qui est installé ici sur un chevalet avec cet encadrement américain, enfin cette caisse américaine, c'est très très beau, c'est brillant, et vous utilisez une résine époxy qui rappelle aussi des œuvres américaines, vous nous en avez parlé.
Je ne connaissais pas du tout ce matériau il y a encore 2-3 ans de ça, et c'est durant un voyage à New York que j'ai pu en fait découvrir ce matériau tout simplement, qui m'a beaucoup séduit, notamment chez un peintre, Alec Monopoly, que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup ses techniques. Et c'est comme ça voilà, que j'ai eu l'idée d'utiliser ce matériau qui a plusieurs propriétés. Hein. La première propriété, c'est une protection de l'œuvre. La deuxième, c'est le fait de faire ressortir les couleurs. Et puis la troisième, c'est voilà, cet aspect glacé, cet aspect un peu vitre, glace que j'aime beaucoup retrouver dans mes créations.
Il y a du collage et puis des éléments qui viennent se surrajouter puisque tout à l'heure, dans la conférence de presse, vous nous avez placé devant une sorte de happening puisque un des personnages, alors on parle d'ascension sociale, de rapport à l'argent et ça se voit dans l'œuvre bien sûr, mais le dernier personnage perd un peu la tête, hein, il est tout doré, hein, ce mouton, il tire la langue et il a à la place des yeux de l'or.
C'est ça. Alors, j'ai vraiment décidé de rajouter 2 pièces d'or pour vraiment appuyer sur le côté domination économique qui, pour moi, c'était nécessaire hein, dans cette œuvre pour vraiment appuyer sur tout ça. Et puis, c'est une technique qui n'est pas utilisée en général par les artistes, encore plus les artistes français. Utiliser de l'or pur dans ses créations, c'est quand même quelque chose qui est assez unique, sachant que chacune de ces pièces a une valeur de 3000 euros. Alors, elles n'ont pas de valeur faciale, ce sont des Krugerrand, donc des pièces d'Afrique du Sud, qui suivent uniquement le cours de l'or.
Il y a aussi les dollars, bien sûr. Hein. Sur chacun des personnages, hein, il y a un billet de 1, un billet de 50, un billet de 100. C'est des vrais billets et des vraies pièces d'or, hein, on est bien d'accord.
Exactement, ce sont des vraies pièces d'or, des vrais billets. Pareil, pour encore une fois appuyer sur le côté domination économique. Et puis, on peut voir que les billets se suivent, hein, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, ça représente aussi cette ascension, cette progression dans l'échelle sociale.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du développement de votre travail. On espère bientôt que peut-être une galerie lyonnaise ou parisienne montrera un peu plus de vos travaux. Mais j'ai entendu parler d'une galerie à Bourg-en-Bresse.
C'est ça. Donc, je vais exposer dans la galerie 112 à Bourg-en-Bresse en septembre. Donc, c'est eux qui sont venus me contacter parce qu'ils aimaient bien mon travail. Et puis, ce sera une exposition qui sera en rapport avec justement le thème de l'ascension. Donc, voilà, c'est en préparation pour le moment. Ouais.
Alors, votre travail nous rappelle aussi, bien sûr, Kesselring, on en a parlé. Vous avez cité Damien Hirst. Vous avez cité aussi Basquiat. On est un peu dans l'univers du street art quand même.
Ah, clairement. Ouais. On est clairement dedans. De toute façon, moi, ce sont mes influences. Ma première exposition, c'était une exposition de Kesselring aussi, quand j'avais 14 ans, qui m'a beaucoup marqué, je pense, qu'a eu...
Au Musée d'art contemporain de Lyon.
C'est ça, exactement. C'était à la Cité internationale de Lyon, voilà, exactement. Donc oui, ça m'a énormément influencé, ouais.
Malgré le fait que vous n'ayez pas fait d'école d'art, hein, vous avez un parcours qui est très éloigné de l'art.
C'est ça, rien à voir. Moi, là-bas, j'ai fait un bac scientifique, après j'ai fait un DUT génie biologique, puis une licence intégrée des aliments conditionnés, option industrie de l'agroalimentaire. Et donc, oui, donc rien à voir avec...
Et puis un jour, on se réveille, on dit « j'aime pas ce qu'on fait ».
Exactement.
J'aime alors, pas ce que je fais.
Ouais, alors, j'avais toujours ce petit côté création artiste en moi, mais c'est vrai que j'ai essayé de le faire taire pendant quelques années, et puis au final, oui, il est ressorti. Et voilà.
Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Paul Envaux. On reparlera de votre exposition en septembre, bien sûr. Merci. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Bonjour Guillaume, tu reçois Lucille en boucle pour évoquer son actualité, mais aussi un podcast ayant pour titre « La longue et sinueuse route des artistes indépendants » que j'ai eu l'occasion d'écouter en partie, évidemment. Bonjour et merci à tous les deux d'être sur notre plateau cette semaine.
Bonjour Lucille.
Bonjour,
alors
merci
déjà peut-être, première question à laquelle j'avais pas pensé tout de suite, pourquoi Lucille en boucle alors? Parce que ça fait un moment qu'on se connaît, mais je m'étais jamais posé cette question.
Franchement, il y a pas vraiment... de raisons particulières, c'est le moment où tu sais, il faut choisir un nom d'artiste et t'as pas envie que ça soit ton nom de famille. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça mon envie, que ça soit un petit peu décalé de moi. Et puis, j'ai quand même beaucoup travaillé avec le Looper, donc il y avait cette idée de ok, bon, ça fait un petit jeu de mots. Je trouve que ça sonne bien, donc maintenant il y a de moins en moins de Looper, mais en tout cas, c'est toujours en boucle.
Alors, justement, il y a de moins en moins de Looper, tu joues en trio, je crois, Et tu viens de sortir un titre qui s'intitule Rêverie au pluriel.
Oui.
Alors, quelles sont tes rêveries alors du moment?
Par rapport au titre ou dans la vie?
Bah, dans la vie et puis par rapport au titre, en fait. Parce que c'est une chanson qui évoque quand même, je ne sais pas, la liberté, le désir, les fantasmes. Il y a plein de choses dans ce titre.
C'est exactement ça. C'est comme ça que je l'aurais pitché. C'est exactement ça. En fait, c'est la liberté d'avoir les désirs qu'on veut et de les explorer et de se libérer du regard des autres. C'était vraiment important pour moi de sortir ce titre en premier parce que ça fait un moment que j'avais pas sorti de titre et c'était un peu de dire coucou, me revoilà et je suis plus libre que jamais et je vais vous montrer la musique que j'ai vraiment envie de faire depuis le début et que j'avais pas forcément réussi à faire. Et maintenant que j'ai cette nouvelle équipe de live, et ben c'est possible en fait.
Oui, voilà. Parce que donc tu joues à trois, on peut peut-être les nommer quand même, le bassiste et le batteur.
Oui, alors le bassiste c'est Nicolas Guillermin et le batteur Martin Bouchard.
Ouais, alors qu'est-ce que ça t'apporte finalement d'avoir des musiciens en vrai?
Déjà plus de fun sur scène et en dehors, et aussi du groove en fait, d'avoir un basse batterie derrière, c'est quand même assez inévitable, ça amène une dose de groove qui est... Enfin, surtout quand les gens jouent bien.
C'est exactement le mot que j'avais noté, tu vois, du groove, parce qu'il faut dire que ce titre a été... clippé. Alors c'est pas un clip, c'est un live.
Ouais,
et tu vas nous expliquer un peu cette aventure parce que c'est un truc assez dingue pour le lieu, pour ce que tu as voulu montrer. C'est un plan séquence. Voilà. Oui. En ce moment, c'est un peu la mode du plan séquence. Hein. Il y a la série Adolescence qui cartonne.
Oui. Alors voilà. Bon. J'aimerais dire que j'ai eu l'idée après ça, mais non, pas du tout.
Mais non, explique-nous quand même comment tu as conçu en fait cette vidéo.
L'idée, c'était que j'avais vraiment envie qu'on se rapproche de l'énergie du concert, mais j'avais pas envie que ça soit filmé en concert. Parce que je trouve que c'est toujours difficile en fait de faire des belles captations. Bah, déjà, il faut être dans une belle salle, il faut que le public y soit chaud, et tu le sais pas en avance. Enfin, c'est beaucoup trop de complexité, de paramètres qui sont pas, qu'on n'a pas la main dessus en fait. Donc je m'étais dit, ok, je veux me rapprocher du live, mais ça va pas être un live avec public. Et je trouve que le plan séquence permet d'avoir un vrai moment. Parce que là, faut dire qu'on a vraiment fait une vraie captation, que ça soit pour la vidéo et le son. C'est-à-dire que le son, c'est une seule prise. Le son qui est sorti, c'est vraiment tout est en une seule prise. On n'a rien enregistré après. Enfin, c'était très cool parce que l'idée, c'était ça l'objectif. Et du coup, on a beaucoup travaillé en amont pour que ça soit possible.
Oui, parce que ça paraît très, très naturel. Enfin, on y croit vraiment. On a vraiment l'impression que c'est du live, mais c'en est.
Voilà. C'est du live.
C'en est, voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a ce lieu qui est particulier parce que c'est très lumineux, c'est très chaud, les couleurs sont très chaudes.
Ouais, alors ce lieu, c'est assez fou parce que je sais pas pourquoi, depuis le début, j'avais en tête de vouloir tourner ça dans un studio de danse. Parce que j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune et je sais pas, j'avais envie de renouer avec ces lieux-là. Et je trouvais pas sur Lyon et du coup, je suis allée chercher sur Grenoble, donc là d'où je viens. Et j'ai contacté le studio de danse où moi je dansais quand j'étais ado et je me rappelais qu'il y avait ces grandes fenêtres et cet endroit super beau. Les personnes m'ont répondu et ont accepté et en fait ce qui est trop bien c'est que depuis les dernières fois où je suis venue, ils avaient changé le sol, donc le tapis de danse était pas noir, il était rouge. Et quand j'ai vu ça, je fais « Waouh, c'est exactement ce qu'il fallait enfin, !»
Ça
vraiment,
va bien
c'est...
avec ta robe rose.
Ouais, voilà, ça va super bien, on est d'accord. Bah, au début, on avait prévu plein de décos, pour habiller un peu le lieu. Et en fait, dès qu'on a eu ce lieu-là, on a dit « Ok, on amène juste de la lumière et ça suffira. »
En tout cas, c'est très réussi. Alors, comme l'a dit Gaëlle, tu tiens un podcast désormais depuis maintenant combien de temps? 2 ans?
C'est la deuxième saison.
Alors, est-ce que c'est 2 ans? Enfin, voilà, une deuxième saison. Et donc, qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce podcast? Pourquoi? Comment ça a surgi, cette idée? Parce qu'il faut expliquer, c'est quelque chose qui est consacré, évidemment, au groupe indé. Déjà, il va falloir définir ce que c'est que l'indé. C'est très complexe, ça, comme...
Justement, en fait, c'est venu à une période où je trouvais que justement tout était un peu trop flou autour des artistes et de ce qu'ils font, et que ça soit pour le public ou même dans les gens dans ce milieu professionnel. Et justement, ce terme indé, c'était un peu un terme fourre-tout qui était assez péjoratif, et j'avais envie de lui redonner de la valeur. Donc je me suis dit que j'allais essayer de prendre des thématiques précises qui étaient un peu fumeuses pour les gens, et d'en parler avec des artistes ou des pros du milieu pour essayer de mettre du réel, en fait, là-dessus, d'enlever un petit peu les paillettes, d'enlever le faux et de mettre du réel. Et c'est ça que j'ai essayé de faire depuis.
Oui, c'est vrai, parce que souvent il y a des grosses compagnies de disques qui ensuite ont des sous-labels indés, mais on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Et donc il y a un épisode qui s'intitule justement « Ça veut dire quoi ?» et tu as invité beaucoup d'artistes qu'on connaît bien ici, dont par exemple l'artiste indé par excellence, Frédéric Bobin.
Ah bah oui, c'est la première personne que j'ai contactée pour cet épisode-là.
C'est obligé, parce que lui, c'est complètement fou, hein. Il fait des centaines de dates, il trouve tout seul les dates, c'est vraiment un peu sa marque de fabrique, quoi. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il a pu te conseiller, en fait, toi? Est-ce que tu fais ça pour toi, pour ton propre projet, ou c'est vraiment à destination d'autres artistes qui pourraient écouter ça, ou même des gens qui veulent se lancer?
Alors en fait, à la base, j'ai même pas vraiment réfléchi à ça. Enfin, je savais même pas qui allait l'écouter, pour être tout à fait honnête. Et c'était plus... j'avais envie d'apporter des témoignages sur ce que moi, je vivais dans le quotidien. Parce que c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'on fait à des gens qui sont pas de ce milieu. Donc c'était un peu pour ça, au début. Et en fait, à force de sortir des épisodes, j'ai eu beaucoup de messages d'artistes qui me disaient qu'ils étaient contents d'entendre des choses qu'ils vivaient, qu'ils se sentaient moins seuls et tout ça. Et... pour le coup, je m'y attendais pas. Donc là, je me rends compte que de plus en plus, c'est pour les artistes, en fait, et pour les gens de ce milieu-là, et aussi pour les fans, en fait, le public qui s'intéresse à ce milieu et qui s'intéresse à la musique en général.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, tu as, je sais plus, il y en a une dizaine sur cet épisode-là, et en fait, on voit que ça se complète, en fait. Certains commencent une phrase et puis finalement, elle est poursuivie alors que tu as dû couper, enfin voilà, ou
monter. Ah oui, totalement.
Voilà. Donc ils se rejoignent.
C'est ça qui est fou, c'est que même dans des esthétiques différentes, bon, tout est à chaque fois dans les musiques actuelles, mais même dans certaines esthétiques différentes et à des niveaux de développement différents, on va avoir les mêmes réponses. Il y a un épisode aussi comme ça où j'ai invité plusieurs artistes sur la comparaison, et c'était fou parce qu'il y avait des gens qui sont en tout début de projet et d'autres qui tournent depuis très longtemps, et ils avaient les mêmes phrases. Ils disaient exactement la même chose.
Alors moi, il y a un épisode que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui... se soutenir. Parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde est en concurrence. Et je trouve qu'à Lyon, on va inviter prochainement Francis Richer qui s'occupe du festival Changer d'air, le labo du conservatoire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit monde et les gens ne sont pas forcément ennemis, n'essayent pas forcément de se monter dessus. Enfin, voilà. Et donc, comment tu l'as conçu, celui-là, d'épisode?
J'ai invité des potes. Tout simplement, j'ai invité donc Thaïs T et Sarah Saphir, qui sont mes amis dans la vraie vie. Mais je l'ai conçu en pensant à tous ces moments où je me suis fait des amis, en fait, et où j'ai été soutenue même par des gens que je connais pas. Et ben moi, j'ai fait le labo il y a quelques années, et par exemple le tout premier jour, j'ai rencontré Claire Days, et en fait on était les deux seules personnes de la promo à faire du solo, et en fait c'est bête, mais ça nous a rapprochés et on est devenus amis, et depuis on se soutient. On n'a pas du tout les mêmes parcours, mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on est là et que s'il y a besoin, et ben on sera là.
Tout à fait. On salue Claire Des, qui a sorti récemment un album fantastique. Pour
magnifique,
moi, c'est un des plus bels albums de cette année, en tout cas voilà, pour une artiste française. Et vraiment, c'est formidable. Alors, on va peut-être écouter quand même Rêverie, parce que c'est quand même un morceau qui ouvre des horizons.
Ouais.
Le film se lance derrière mes paupières. Réveille mes sens, mon corps se laisse faire. Dans le premier rôle, je joue la fille confiante, celle qui attire l'autre et n'est jamais méfiante. Ton sourire au loin surgit comme un mirage, pas besoin de nous.
top les codes des séries télé. Suis leur méthode, le fantasme parfait. Cherche à faire éclore un courant magnétique. Pour les faux raccords, je modifie le script. Je plonge sans retenue dans cette illusion. Pourvu que ça dure, subtile sensation. En proie à l'envie, je mets la scène sur pause. Joue au ralenti pour reprendre une dose.
D'écouter Lucie Lamblouc avec Rêverie. Est-ce que tu as des dates de concert prochainement? Est-ce que tu as peut-être d'autres titres qui vont sortir parce qu'on espère un nouvel EP ou un album?
Je peux rien vous dire sur un EP ou un album. Moi aussi, je l'espère. Non, en tout cas, il y a plein de chansons. Effectivement, j'ai enregistré d'autres live sessions sur le même principe. Donc, il y en a d'autres qui vont sortir dans les prochains mois. Et au niveau des dates de concert, ça va plus être à partir de septembre, où là, je vais être dans des festivals et des salles de concert. Voilà.
D'accord. Bah, écoute, on te remercie. On attend septembre avec impatience, mais on invite surtout à aller voir le clip. Alors, c'est pas un clip, on est d'accord, mais c'est quand même super bien réalisé avec ce plan séquence. Et puis, le plan de la fin, enfin, c'est le même plan, mais la fin est renversante. On va
dire
ça comme ça.
Franchement, c'est pas pour faire de la pub d'Internet, mais la fin, elle est vraiment trop bien.
Voilà. Moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Merci, merci, Lucille.
Merci
à bientôt.
Beaucoup. À bientôt. Bonjour Gaëlle, cette semaine il est question de fleurs dans ta chronique Printemps des fleurs, ça marche bien.
C'est l'exposition Hanami contempler les fleurs à la BF15. Au Japon, Hanami consiste à contempler les fleurs. Hana signifie fleur et mi, voir. Cette contemplation connaît son apogée lors de la floraison des cerisiers, dont la fleur incarne l'impermanence des choses et la beauté de l'instant présent. À la BF15, Hanami convoque l'art, la science, la botanique, l'industrie, mais aussi l'histoire des fleurs à Lyon. La BF15 fête ses 30 ans pendant toute l'année. Je vous en avais parlé récemment lors d'une chronique coup de cœur. Chaque exposition de 2025 dialogue avec une réactivation d'œuvres présentées lors des trois décennies passées. Pour Hanami contempler les fleurs, le dispositif anniversaire concert met à l'honneur une œuvre des Brésiliens Angela Detanico et Raphaël Lane. Ce duo, amplement exposé au niveau international, a également représenté le Brésil lors de la 52e Biennale de Venise en 2007. Constitué d'une sémiologue et d'un graphiste, le tandem travaille sur la décomposition et la recomposition d'images, le lisible et l'illisible. La réactivation de leur diptyque vidéo de 2006 intitulée « Or, autrement » se trouve dans la salle du fond de la BF15. L'œuvre est une variation technologique faisant référence aux vanités « Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir », registre qui sollicite espace, temps et mémoire. Le titre « Or, autrement » est l'anagramme de « nature morte ». Cette idée de permutation se manifeste tangiblement dans la décomposition numérique d'une nature morte. Le diptyque se compose de deux vidéos projetées côte à côte. D'un côté s'opère petit à petit une soustraction de fragments d'une image de nature morte flamande du XVIIe. De l'autre côté, le spectateur assiste à une reconstruction progressive, pixel par pixel, de la nature morte. En plus de l'anagramme du titre, l'œuvre pratique l'anagramme visuel. L'idée d'interversion est intégrale. Ce procédé pictural rappelle les techniques plus traditionnelles du découpage et de l'assemblage, mais la décomposition numérique offre ici de magnétiques et hypnotiques effets. Autre artiste, Yveline Noiseur, récemment exposée à la galerie Françoise Besson, en résonance avec la dernière Biennale de Lyon. Pour Anami, elle propose trois photographies, dont l'une spécifiquement réalisée pour l'exposition. Photographie issue de sa sensible, mélancolique et poétique série, intitulée « Le langage des fleurs et des choses muettes ». La vanité, le temps qui passe, se révèle dans des compositions de fleurs fanées ou séchées et dans la fragilité d'une bulle de savon empreinte de superbe irisation. Bulle de savon sans doute en clin d'œil à un tableau présent au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Intitulé « Vanité », ce tableau a été peint par Renard de Saint-André-Simon en 1650. Yveline Noiseur confesse l'aimer tout particulièrement. Pour Laurent Mazoero, la contemplation des fleurs s'envisage dans des végétations minimalistes. Le passé d'ancien graphiste de l'artiste se perçoit dans des compositions picturales qui révèlent la substantifique moelle formelle de la typographie. Le geste de l'artiste convoque l'expressivité et la puissance de la qualité graphie, mais avec des lignes de même épaisseur, le trait à la même graisse, référence supplémentaire aux polices de caractère. Face à l'œuvre Flowers, de nombreux spectateurs songent voir un champ de capucines blanches. Ce semi est aléatoire, chaque forme est différente et peinte avec les doigts. Laurent Mazoero insiste, il organise des formes imparfaites, non régulières, dans un espace qui, lui, est régulier. Idée de construction d'un chaos organisé qui insuffle de la vie là où il n'y en a pas. Dans cette distribution aléatoire, une beauté émane de la large gamme de blancs réalisés. 10 couches de blancs nacrés sont passées à chaque fois. Adoptez donc plusieurs angles de vue afin d'être saisi par la variation et la vibration du spectre de ces blancs irisés. David Bertocchi, italien, quant à lui, a placé des papiers filtres plissés de différents formats à même le sol. Ces filtres, au procédé identique à des filtres à café, ont été utilisés pour une filtration de patchouli. Avec un positionnement en constellation de ces pyramides dans la BF15, l'artiste suscite un cheminement olfactif. Autre œuvre pour un ami, celle que David Bertocchi a réalisée lors d'une résidence à l'espace de l'art concret, à Mouans-Sartou, près de Grasse. Dans l'entreprise de parfum Azur Fragrance, l'artiste a récupéré, dans une cuve contenant les erreurs de production de parfum, une composition olfactive aléatoire pour réaliser une édition multiple de 100 flacons intitulée « 1000 fleurs ». David Bertocchi parle de « ready-made olfactif ». J'ai senti 1000 fleurs. L'odeur de ces erreurs de production se rapproche, dixit l'artiste, de celle d'une lessive. Rose Lauder, franco-péruvienne, expose Bouquet 1 à 10, un travail expérimental avec un tissage image par image. Cet échelonnage de photogrammes se rapproche d'une composition picturale réalisée petite touche par petite touche. le bouquet de fleurs devient un bouquet filmique avec parfois des images surprenantes et soudaines de mauvaises herbes. L'exposition Anami Contempler les fleurs est programmée à la BF15 jusqu'au 31 mai. À noter, le 5 mai, rencontre avec Grégoire Boulier, auteur du livre Le syndrome de l'orangerie. Et le 17 mai, une grande journée Anami dans le cadre du Médadel, avec une balade botanique au parc de la Tête d'Or, une visite du Salon des fleurs au Musée des Beaux-Arts et une visite de l'exposition Anami. Plus d'informations sur la bf15.org.
Merci beaucoup Gaëlle.
Bonjour Thomas, cette semaine tu as choisi les mots de Jérôme Leroy. Nous t'écoutons et on en parle juste après.
Le poids du corps. Ce genre de choses arrive à force de fouiller chez les bouquinistes. Je tombe sur un livre des presses universitaires de Grenoble, alors que je suis quelque part du côté de la frontière belge chez un revendeur plutôt spécialisé dans les mauvais genres, avec des couvertures de gourdons qui sentent bon l'humidité, le fleuve noir 1973, les premiers seins nus en noir et blanc de la collection Espionnage, entrevue à 11 ans, et qui avait cette façon délicieuse de me faire rougir les pommettes comme si j'étais le complice troublé, mais heureux, de cette indécence sur les tourniquets de la gare de Rouen. Le livre d'histoire égaré là était composé d'articles savants dont l'un s'intitulait « Au cœur de l'intime, les poches des cadavres, Lyon, Lyonnais, Beaujolais, 17e, 18e siècle ». Par je ne sais quelle association d'idées, je me suis rappelé une lointaine recommandation maternelle. Ne pas sortir avec des slips ou des chaussettes trouées si par malchance je devais me retrouver à l'hôpital après avoir été renversé par un bus. Ensuite, j'ai réfléchi à ce qu'on trouverait dans mes poches si, sortant du bouquiniste frontalier, j'étais renversé par ce bus qui me poursuit depuis l'enfance. Une fois admis que je respecte encore 50 ans plus tard les recommandations maternelles, il y aurait dans les poches un Samsung d'un modèle déjà ancien, un trousseau de clés comportant encore la clé de la salle 24 d'un collège détruit depuis plus de 15 ans, dans le portefeuille, une carte de presse périmée, une carte d'identité périmée aussi, une carte de crédit, une carte de grand voyageur SNCF, une carte d'un parti de gauche issu de la 3e internationale, un billet de 10 euros, deux ou trois cartes de visite professionnelles, mais qu'on m'a donné, je n'ai jamais eu, je crois, de carte de visite. Et, dans le sac à dos, deux ou trois livres. Des poèmes de Follin, le journal d'Yves Navarre, Mohawk, de Richard Rousseau, un exemplaire du Canard enchaîné avec la grille de mots croisés terminée, ce qui serait, dans les minutes suivant la collision avec le bus, ma première ou ma dernière, ça dépend comment on voit le problème, fierté post-mortem, de l'aspirine, deux ou trois stylos roller pilote V-Ball 07, un stylo à mine rétractable avec une gomme pour les mots croisés, un de ces carnets de la compagnie du Kraft que mon ami F m'envoie régulièrement de Paris. Si on me retire ma montre de la marque franc-comtoise Copo que j'adore pour son cadran marqueterie d'Épicéa et mon alliance, le portrait de qui j'étais sera aussi complet que celui d'un mort du XVIIe siècle, quelque part dans le Beaujolais.
Merci beaucoup Thomas. Parle-nous de Jérôme Leroy. Qui est-il ? J'ai entendu une de ses interviews et il s'intéresse beaucoup en fait à cette idée un petit peu de qu'est-ce qui se passe si un effondrement, ou en tout cas de se mettre un petit peu en marge du monde, j'ai l'impression.
Oui, et alors ce livre est justement en marge de son œuvre romanesque, hein, parce que je pense qu'il est surtout connu comme romancier. J'ai lu il y a quelques années un superbe roman hein, qui s'appelait La dernière nuit des fauves, roman politique très très costaud et très bien mené, c'était vraiment un grand bonheur et je suis en train de lire son dernier roman aussi qui s'appelle La petite fasciste, beaucoup plus court, ramassé et avec des moments très drôles aussi, mais c'est le fond est cruel, hein, c'est la montée en puissance de l'extrême droite, il est très politique dans ses sujets.
Ouais.
Là on est avec un pas de distance dans ce texte qui s'appelle un parfait effondrement. Ces textes, hein, parce que c'est une somme de chroniques, de récits courts sur des moments, avec une distance élégante au cours des choses et une position vis-à-vis de tout ça. Alors, quelquefois, ça parle explicitement de l'effondrement, qui peut être de nature diverse, hein, c'est pas simplement...
Personnel et collectif.
Voilà, tout à fait. Et c'est d'une élégance rare. Moi, j'ai plongé là-dedans et je n'en suis sorti que vraiment fini jusqu'au bout et sans m'arrêter. Ouais.
Ben merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. Nous terminons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Gaëlle, est-ce que tu veux bien commencer cette semaine ?
Mon Gédéon de la semaine est l'exposition « Arbre du ciel » de Victor Pouche-Perchaud à Manifesta. Quel ravissement de voir combien un jeune artiste diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2023 parle si bien et avec humilité de son travail, tout en proposant une œuvre déjà dense, récemment remarquée par un collectionneur. Pour Céline Melon, directrice de Manifesta, l'enthousiasme immédiat a conduit à la programmation de cette première exposition individuelle. Victor Pouche-Perchaud s'intéresse aux vivants que l'on ne voit pas, à la végétation sauvage, résiliente et résistante qui pousse dans les interstices urbains, entre trottoirs et murs ou autour des grilles et des barbelés dans des friches. Arbre du ciel, le titre de l'exposition, est l'autre appellation des Helianthus altissima, plus communément appelée élante, une plante à la croissance si rapide que nombreux sont ceux à vouloir l'éradiquer. Or, dans ses peintures, Victor Pouche-Perchaud réalise d'authentiques portraits de cette végétation décriée. D'indésirables, les élantes deviennent un sujet à part entière. Elles gagnent en réhabilitation et en visibilité. La peinture demande du temps, de la concentration et de l'attention. Victor Pouche-Perchaud souligne la peinture et du présent mise en œuvre. Voilà la proposition, ralentir pour mieux penser, intensifier le regard sur cette végétation discréditée pour changer de point de vue. Arbre du ciel sonne comme une ode à la nature sauvage, non domestiquée. Représenter cette végétation vivace, proliférante et vagabonde dans des non-lieux fait songer à de l'urbex, mais pictural, pas photographique. En plus des peintures, une série de fusains sur papier coréen Anji révèle l'étendue des techniques pratiquées par l'artiste, qui écrit également de la prose poétique. Souhaitons à Victor Pouche-Perchaud une vivace carrière. L'exposition Arbre du ciel est programmée à Manifesta jusqu'au 26 mai 2025. Plus d'informations sur manifesta-lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Alors Guillaume, avec quoi es-tu venu cette semaine ?
Alors moi je suis venu avec un disque qui va sortir le 25 avril d'un artiste qui s'appelle Victor Lee Gabriel. C'est son vrai nom. On le connaissait précédemment sous le nom de Grimm, mais Victor Lee Gabriel sort donc un premier album qui s'intitule, je trouve le titre très très beau, Le Monstre et la Maison. Alors c'est un artiste qui, avec toute sa petite famille, a quitté la ville pour aller vivre à la campagne, mais vraiment dans la campagne profonde, des forêts, installer un studio, voilà, pour enregistrer. Et puis le malheur s'est abattu sur cette famille puisqu'il a perdu sa femme. Et donc ce disque, certains pourraient parler de catharsis, de résilience, vous savez, tous ces mots à la mode dans les médias. Moi, je dirais que c'est un disque d'une terrible beauté. Vraiment, c'est un, pour reprendre le titre d'une biennale, je crois que c'était en 2011, il me semble, d'art contemporain à Lyon. Donc vraiment un très très beau disque, pardon, lapsus. Et voilà, il y aura une release party au Marché Gare le 25 avril, le jour de la sortie de l'album. Voilà, avec un autre artiste, un artiste qui s'appelle Nicolas Michaud. Et je vous invite à aller au Marché Gare. C'est vraiment un immense disque. On parlait tout à l'heure de Claire Days avec son album qui est vraiment magnifique. Je trouve que là, c'est aussi un disque vraiment sublime, somptueux, et voilà, qui n'est pas si triste que ça. Voilà, au contraire, il est plein de lumière, plein de choses positives, et comme on le voit sur la pochette, il a un merveilleux parapluie, parasol de toutes
on
les couleurs.
On écoute un extrait peut-être.
On écoute un extrait, alors tout à fait. Eh bien, on va écouter un des morceaux que j'aime beaucoup, qui a été clippé, je crois, au Gros du Roi. Au Gros du Roi. Tout est à refaire.
Changer, tout est à refaire. Repeindre nos dieux, changer le nord. Pourquoi changer, tout est à refaire. Changer nos yeux, s'éloigner du bord. J'ai pris trop de trains.
C'était Tout est à refaire de Victor Lee Gabriel sur son premier album Le Monstre et la Maison qui sortira le 25 avril sur le label Vibration sur le fil. Voilà encore un nom de label merveilleux, Vibration sur le fil. Donc voilà, je vous invite vraiment à écouter ce disque parce que c'est quelque chose d'assez somptueux. Voilà.
Merci beaucoup Guillaume. Pour moi, ce sera un lieu à découvrir au cœur de la Croix-Rousse, le jardin Rosamir. Dans une cour intérieure de la grande rue de la Croix-Rousse, Jules Senis, un maçon réfugié de la guerre d'Espagne, a créé un lieu extraordinaire dédié à sa maman, Rosa Mir. Dans le cadre de la présentation du programme Lyon Nature, j'ai eu l'occasion de visiter le jardin Rosamir à la Croix-Rousse. Une curiosité de l'art brut préservé par les équipes des jardiniers de la ville de Lyon.
Petit à petit, ce jardin est devenu une véritable passion pour lui, dévorante. Il voulait carrément aller jusqu'au bout de la parcelle, au jardin qui avançait, et qui était devenu véritablement l'œuvre de sa vie, littéralement. Un an après la mort de Jules Senis-Mir, ville de Lyon rachète le jardin dans sa totalité, ainsi que la parcelle devant. Et c'est ainsi que le jardin est préservé, on va dire, de futurs programmes immobiliers qui auraient pu s'installer, enfin se mettre en œuvre ici sur la Croix-Rousse. Et sachant que la ville de Lyon en devient propriétaire, comme par hasard, miracle, en décembre 84 de la même année, le jardin est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc ce qui le préserve et le sanctifie quelque part. Et puis également, il est inscrit à l'inventaire des œuvres remarquables du XXe siècle.
On va vous présenter quelques plantes emblématiques un petit peu du jardin qui sont là tout le temps. Ce jardin, il a été fait aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire avoir toujours à un moment donné une plante, un petit peu une fleur qui soit un petit peu la vedette du moment. Vous en aurez au mois de mai qui vont ensuite disparaître, qui vont laisser leur place à une autre du mois de juin, au mois de juillet, etc. Donc Jules Senis-Mir a planté ce type de plantes et vous les présentez d'un point de vue botanique. Donc là, ce que vous pouvez voir sur les vasques, c'est ce qu'on appelle des agaves. Donc là, vous avez l'Americana qui est une variante. L'agave cisalia, ça vous parle l'agave cisalia ? C'est une agave avec laquelle on fait un tissu bien connu au Mexique qui s'appelle le sisal.
Et en fait, on dévide un fil à partir d'une encoche dans la feuille et ensuite c'est tissé. Et c'est comme ça que vous fabriquez vos sombreros et vos nattes au Mexique. C'est des agaves qui ont la particularité d'être pas être gélives, c'est-à-dire de supporter des températures en dessous de zéro. Autre plante que l'on a, c'est ce qu'on appelle les opuntias, là. Ou alors on les appelle aussi les figuiers de Barbarie et également cactus à raquettes. Ça aussi, ça vient du Mexique, ça a été ramené par Christophe Colomb. Ça fait partie aujourd'hui en Europe des plantes qui sont des EEE, exotiques envahissantes. Alors la petite histoire assez rigolote, c'est que toutes ces plantes avaient été enlevées par nos services. Il en restait un quand même qui avait été sauvegardé et qui avait traversé les âges, même la fermeture du jardin. Et en fait, tous ceux que vous voyez là maintenant sur les vasques sont les enfants de celui qui a survécu à toutes les mésaventures du jardin dans les années 80, 90, 2000.
Alors je tiens à préciser en fait que ce jardin est très peu connu, même des gens de la Croix-Rousse. Évidemment, c'est un jardin un peu secret parce que c'est ouvert que les samedis de 14h à 18h, 4 heures seulement, et évidemment du 5 avril au 25 octobre. Donc quand vous avez envie d'y aller, eh bien il faut bien choisir son moment. En tout cas, tous les samedis après-midi, vous pouvez faire du lèche-vitrine, mais vous pouvez aussi aller visiter ce jardin merveilleux. Merci beaucoup, restez curieux et poussez la porte des jardins fantastiques. Merci.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.